Quelques heures plus tard, hôpital, minuit 9. J'ouvre les yeux difficilement. J'aperçois une silhouette assise sur une chaise en face de moi. J'ai espoir qu'il s'agisse d'Amir et qu'il ne m'en veut plus. Je me frotte les yeux et affiche un grand sourire. J'allume la lampe posée sur la table de chevet. Dilara. Mon sourire disparaît instantanément. Je soupire de déception. Je sais que tu aurais préféré voir ton mari, mais il va falloir que tu te contentes de moi, ricane-t-elle. Je rougis pendant qu'elle continue de me détailler en souriant. Elle va finir par croire que je suis complètement accro à Amir. C'est le cas, mais je ne veux pas que ça se sache. J'ai l'air impoli, excuse-moi. Je lui réponds. Je m'assois convenablement sur le lit d'hôpital pour lui faire face. Comment tu as pu entrer à cette heure-ci? Les visites ne sont plus autorisées. Quand tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux, m'explique-t-elle en bâillant. J'oubliais qu'elle est quasiment aussi fortunée qu'Amir. Comment tu as su me trouver? Elle lâche un petit rire. Cette femme respire la joie de vivre. Elle est à l'antipode de ce qu'on s'attend à voir dans le monde du crime. Sa présence me fait du bien. J'ai la sensation de me sentir plus légère. Tu poses beaucoup de questions, Kira. Pour tout te dire, Amir m'a demandé de venir pour veiller sur toi lorsque l'hôpital l'a informé que tu avais décidé de rester pour la nuit, m'avoue Dilara. Il reste attentionné même s'il m'en veut. Ça ne devrait pas m'étonner. Il passe sa vie à veiller sur moi. Je ne peux pas m'empêcher d'afficher un sourire ému. J'aurais voulu qu'il vienne lui-même, mais son geste me touche. Merci d'être venu, Dilara. Elle se met à rougir, comme si elle ne s'attendait pas à des remerciements. En la voyant comme ça, je pense instantanément à Amir, qui rougit quand il est gêné. « Tu vas bien ?» me questionne-t-elle en se raclant la gorge pour masquer sa gêne. Je ne sais pas quoi répondre à cette simple question. Pourtant, ça devrait être facile. Je ne peux pas dire que je me sens bien alors qu'il n'est pas auprès de moi, qu'il est déçu. Il est probablement en train de faire une connerie pour se défouler et penser à autre chose que sa peine. « Amir t'a tout raconté, n'est-ce pas ?» Je l'interroge. Son regard me pénètre. Elle hoche la tête. « Est-ce qu'il s'est calmé? Il va bien ?»« Cesse de t'inquiéter pour lui. Amir se porte bien. Il est juste énervé et blessé. Mais ça lui passera, » me dit-elle. Je baisse la tête. J'aurais dû me mettre à sa place, essayer de comprendre ses positions. Mais je ne l'ai pas fait et ça nous porte préjudice à tous les deux. Tu n'aurais pas dû lui dire que tu serais partie avec l'enfant si tu avais été enceinte, car tu craignais qu'il te demande d'avorter. Il a été vexé et surtout touché que tu puisses croire ça et envisager de le quitter. Qui ne le serait pas? J'ai réfléchi comme une idiote. La première fois qu'on a couché ensemble, il s'est empressé de me demander si je prenais un moyen de contraception. Je croyais qu'il ne voulait pas d'enfant. Il ne m'a jamais prouvé le contraire. Il s'est marié avec moi pour me protéger de mon père et non par amour. Amir est jeune et puissant. Les hommes de sa position ne veulent pas s'embarrasser d'un bébé. Je ne le voyais pas changer les couches et préparer des biberons. Amir est maladroit, mais il ne t'aurait jamais forcé à avorter. Il t'aime plus que la vie, et il aurait tout fait pour toi et le bébé. C'est mon tour de rougir pendant qu'elle plaisante. Je donnerais tout pour entendre Amir me dire des mots pareils. Je ne voulais pas le blesser. Tu penses qu'il trouvera la force de me pardonner? Je demande timidement. Amir est fier, et il a un énorme ego, mais il te pardonnera, m'affirme-t-elle. Il ne peut pas vivre sans toi, mais tu dois lui prouver que tu as confiance en lui et que tu ne l'abandonneras pas. Amir est un homme fort et brave. Il a longtemps cru qu'il était intouchable, mais tu es devenue sa faiblesse. Alors, Kira, fais en sorte d'être une force pour lui, déclare-t-elle en se levant pour s'approcher de moi. Elle s'assoit sur le lit à mes côtés. Elle se met à me caresser tendrement les cheveux comme une mère le ferait pour son enfant. Son geste est doux et sécurisant. Je ferme progressivement les yeux pendant qu'elle continue de me choyer. Le lendemain, Villa Ben Khalif, 18h05. Je suis rentrée depuis quelques heures. Les autres résidents de la villa sont sortis. Je suis directement allée me doucher et enfiler des vêtements propres. Je suis assise dans le salon depuis un moment à essayer de m'occuper comme je peux. J'attends Amir en espérant qu'il rentre bientôt, mais il ne semble pas vouloir revenir chez lui. J'entends mon téléphone sonner. Je le sors de ma poche. Il s'agit d'un numéro inconnu. Allô?
Bonjour, Kiara.
Je reconnaîtrai cette intonation entre mille. Monsieur X. Il faut dire que je suis habituée à l'entendre, même si dernièrement, j'ai plutôt traité avec son larbin. Il continue d'user de divers stratagèmes pour modifier sa voix. Je soupire pour lui montrer à quel point l'avoir au téléphone m'ennuie. Qu'est-ce que tu veux encore? Je questionne avec impatience.
De prouver que je ne suis pas aussi cruelle que tu peux l'imaginer, en te livrant une information capitale.
J'admets qu'il est en train de capter mon intérêt. Il n'a pas l'air de plaisanter. De quoi tu parles?
Des hommes à moi étaient en train de surveiller Amir et l'ont vu entrer dans la villa de ton paternel. Il en est ressorti une trentaine de minutes plus tard, inconscient, porté par deux hommes d'Ahmed. Je te précise également qu'Amir avait du sang sur lui.
Déclare-t-il. Mon cœur se serre en entendant cela. J'ai failli faire tomber mon téléphone, mais je l'ai retenu de justesse. Je ne comprends pas ce qu'Amir faisait chez mon père et surtout d'où provenait son sang. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je demande avec inquiétude.
Tout ce que je viens de dire est la vérité. Ahmed a tendu un piège à Amir. Il semble l'emmener quelque part pour finir le sale boulot. Mes hommes le suivent de très près et ils ont pour ordre de ne pas intervenir. Mais si tu le souhaites, je peux leur ordonner de le sauver.
Me propose-t-il? Je ne lui fais pas confiance. Je ne sais pas pourquoi il est en train de m'aider. Il doit avoir un intérêt dissimulé ou il s'attend à ce qu'on lui renvoie l'ascenseur. Amir préférerait mourir que de t'être redevable. Je rétorque. Il ricane comme s'il avait prévu cette réponse.
Je ne veux pas qu'Amir meure sans m'avoir donné cette puce. Je t'envoie la position d'Ahmed et Amir pour que tu ailles récupérer ton homme. Je compte sur toi pour le sauver des griffes de ton père.
Il raccroche, puis m'envoie des coordonnées par message. Je cours vers l'un des tiroirs du salon duquel je sors une arme. Je vérifie qu'elle est chargée, puis je la coince à l'arrière de mon pantalon. Je sors de la villa en me précipitant vers ma voiture. Je monte dans celle-ci et entre l'adresse dans le GPS. Je démarre avec précipitation pour suivre l'itinéraire. Je serre le volant en tentant de calmer mes tremblements. Amir ne se serait jamais laissé embarquer sans se battre. Il a dû être blessé puisque les hommes de l'autre ordure ont vu du sang. J'espère qu'il va bien et qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Ahmed est un psychopathe et il veut la peau d'Amir depuis bien trop longtemps pour se retenir de lui faire du mal. Je crains de découvrir son état. J'ai une énorme appréhension. Pourtant, je sais qu'Amir est un battant et qu'Ahmed est incapable de lui causer du tort. En réalité, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils aient réussi à le capturer, ce qui n'était jamais arrivé par le passé. Ils ont dû lui faire un véritable coup bas. Une larme coule sur ma joue que je m'empresse d'essuyer. Ce n'est pas le moment de faire preuve de faiblesse. Cesse de te lamenter, Kiara. Amir va bien, il est tenace. Je continue de suivre ma trajectoire quand j'aperçois une grosse flaque en plein milieu de la route. Je plisse les yeux pour bien la distinguer. On dirait de l'huile tant elle est brillante. J'essaie de l'éviter, mais c'est trop tard. Je perds le contrôle de ma voiture et percute un arbre. L'airbag conducteur se déclenche et je me retrouve la tête dedans. Je mets quelques minutes à reprendre mes esprits, sonnés par le choc. Je laisse échapper un gémissement de douleur lorsque mon regard se pose sur ma cuisse. Mon pare-brise a explosé en plusieurs morceaux de verre et l'un d'entre eux a pénétré ma cuisse. J'essaie de l'arracher d'un coup sec, mais il est profondément enfoncé. Je gémis de douleur, puis je compte jusqu'à trois et je le fais sortir. J'attrape mon téléphone, qui est installé sur le siège passager, et le mets dans ma poche. Je sors de la voiture tout doucement. Je mets quelques secondes à retrouver un parfait équilibre. Une douleur me lance dans la cuisse, je souffre le martyr, mais ce n'est pas le moment d'avoir mal. Je toussote en regardant le GPS de mon téléphone. Je suis à 5 minutes à pied de la position d'Amir, ce qui me rassure. Dès que j'essaie de lever ma jambe, je suis prise d'une vive douleur qui m'empêche d'effectuer le moindre mouvement. Je laisse échapper un cri et tente d'ignorer le mal. Je me mets à courir le plus vite possible en hurlant et en grimaçant à chaque mouvement. Je finis par arriver devant une cabane en feu. Elle est entourée par les flammes et de gros nuages de fumée s'en échappent. Je comprends immédiatement qu'Amir est à l'intérieur de celle-ci en voyant les voitures de luxe de mon père garées devant. Je me dirige en courant vers la cabane, toujours en me mordant les lèvres pour éviter de pleurer à cause de ma douleur. Je suis sur le point d'entrer malgré les flammes quand je suis interceptée par deux hommes d'Ahmed. Mon regard se pose sur le visage de mon père qui m'observe avec un grand sourire. Je peste en voyant la cabane brûler alors que je suis retenue par ces molosses. « Ahmed, ne le laisse pas mourir dans cette cabane !» Je l'implore. Il doit être en train de jubiler de me voir aussi impuissante, mais je ne laisserai pas ma fierté m'empêcher de sauver Amir.
« Tu me supplies ? Où est passée ton arrogance ? »
ricane-t-il. « Je ferai tout ce que tu veux, mais laisse-moi aller le chercher. Il ne mérite pas de mourir !» Je réplique.
« Pourquoi il ne le mériterait pas ?»«
Sérieusement, il croit que j'ai le temps de lui faire une dissertation sur le pourquoi du comment ? C'est lui qui devrait être dans cette cabane en feu et pas Amir. Laisse-moi aller le chercher, s'il te plaît. Pour une fois dans ta vie, fais preuve d'humanité. » Je le supplie en levant les yeux au ciel pour retenir mes larmes.
« Implore-moi encore un peu. Mets-toi aussi à genoux et je verrai si je peux te laisser le sauver. »
se moque Ahmed. Je me retiens de lui balancer mon poing dans la figure. Je repousse ces hommes et me mets à genoux devant Ahmed malgré la douleur que j'éprouve. J'ai les larmes aux yeux, mais je me retiens. Je le fixe tout comme lui. Il reste impassible, comme à son habitude. Je t'en supplie, laisse-moi récupérer Amir. Amir ne doit pas mourir, j'ai besoin de lui. Il est la personne que j'aime le plus dans ce monde, je ne peux pas vivre sans lui. Je te donnerai ma vie en échange de la sienne si c'est ce que tu désires. Ahmed me regarde droit dans les yeux sans répondre. Il semble considérer ma demande. En temps normal, il n'aurait même pas fait l'effort de m'écouter. Il adresse un signe de main à ses hommes, qui m'aident à me relever, puis il me tourne le dos et se dirige vers leurs voitures respectives. Lorsque je les entends démarrer, j'esquisse un sourire. Il me donne une chance de le sauver. Je me rue vers la cabane en flammes. Une fois à l'intérieur, je tousse à cause de la fumée épaisse. Je ne vois presque rien, mais je finis par distinguer le corps d'Amir, couché en plein milieu de la pièce. Il est recouvert de sang au niveau de l'épaule droite. Il me détaille, choqué, et son regard passe de la surprise à l'inquiétude. Il est dans l'incapacité de bouger, car une grosse planche en bois bloque sa jambe gauche. Elle est sûrement tombée à cause du feu.